terrible, insupportable. Après les fêtes, et on revient dans notre étude. La semaine prochaine, évidemment, on n'étudiera pas. Yom HaTzmaout oblige. Je ne sais pas ce que vous avez prévu chacun de faire.
Barbecue.
Barbecue, évidemment. Moi, je me suis inscrit à l'événement des EI.
Des EI, nous aussi.
Voilà. Donc,
avec mes enfants, mes petits-enfants.
On verra. Yé Beseder. Nous sommes au chapitre 46, verset 1, Parashat Vayigash. On est dans la paracha qui vient ramener les Bnei Israël en Égypte. En fait, cette paracha de Vayigash, ça a été au début le roman hollywoodien. Voilà, Yosef se dévoile à ses frères. Tout ça, c'est très beau. Mais, ok, une fois qu'on a terminé de mettre le spot sur Yosef et sa famille, eh ben, on va parler maintenant de ce qui se passe en Égypte. Parce que la paracha de Vayigash, c'est également la paracha où on va voir le projet économique, la réforme économique, la réforme des retraites de Yosef HaTzadik. C'est-à-dire, ah bah oui, il va réformer tout le pays. C'est-à-dire, n'oubliez pas que c'est la famine en Égypte et que donc Yosef fait un petit peu ce qu'il veut. Alors allons-y.
Sans manifestation.
Ah, qui te dit? Seulement, il y a certainement eu des manifestations, mais les Égyptiens ont réussi à mater les manifestants à l'ancienne. N'oublions pas que c'était quand même il y a 3500 ans. Donc ils ont fait ça à l'ancienne. Vaïssa Israël, vechol asher lo, vayavo be'er ashava, vaïsbach zevachim le'eloé aviv Yitzhak. Alors, on est sur le départ de Yaakov en Égypte, ça y est, on est venu le chercher, il a compris que Yosef était encore en vie, et donc il va maintenant descendre en Égypte. Mais c'est d'ailleurs bon, mais deux secondes, pourquoi il s'arrête à Be'er Sheva? Il part de Hebron, il descend vers le sud, c'est normal de passer par Be'er Sheva, mais il s'arrête là-bas, au Zoveach Zvachim le'Eloé Aviv Yitzhak. Il sacrifie au dieu de son père Yitzhak. Ma kesher. Alors oui, Yitzhak a vécu à Be'er Sheva, Yitzhak c'est sa région, pourquoi pas? Mais quel rapport? Eh bien, le rapport, il est que Be'er Sheva, c'est la dernière tachana avant l'Égypte. C'est la dernière station avant l'Égypte. Or, Yitzhak n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Yaakov, maintenant, tu vas me dire, mais lui, il est déjà sorti. Oui, sous l'ordre de Yitzhak. C'est-à-dire, Yitzhak lui a dit de partir il y a très longtemps pour fuir Esav, pour aller trouver une femme pour se marier. Mais depuis, il est rentré. Et repartir en exil, ben, c'est sans l'accord de son papa, ça va pas. Donc, il va d'Afka faire des sacrifices, les Eloé Aviv Yitzhak. Pour bien dire, toi, tu es pas sorti, sache que j'ai pas oublié qu'il va falloir que je rentre.
Il vivait encore Yitzhak ou
Yitzhak? Non, il n'est pas vivant.
Non.
Mais, sache que. C'est-à-dire, Vayomer Elohim le Israël bemarot alayla. Vayomer Yaakov Yaakov Vayomer Ineni. Ce verset, il est fantastique parce que tout est dit. Vayomer Elohim lemi le Israël bemarot alayla. Et qu'est-ce qu'il lui a dit?
Yaakov.
Je comprends pas, t'es Israël ou t'es Yaakov?
Exactement,
il descend en Égypte. Donc on a dit, Israël, c'est la dimension de nation en terre d'Israël. Yaakov, c'est le juif d'exil. Donc, Dieu se révèle à Yaakov en Israël. Et il dit donc, il parle à Israël, mais il lui dit, tu vas maintenant partir Bemarot à Laïla. Laïla, c'est la galoute. C'est pas seulement qu'il lui a parlé en rêve la nuit, mais c'est, il lui a parlé dans une réalité d'exil. Et donc il lui dit, Yaakov. Vayomer, Ineni, ça veut dire je suis prêt à être Yaakov. Comme Avraham avait répondu Ineni à l'appel d'Akadosh Baruch Hu. Donc en disant Ineni, Yaakov ici s'inscrit pour la première fois dans la continuité d'Avraham. C'est-à-dire, donc il accepte malgré l'exil Ve'esra le Goy Gadol. C'est pas évident. C'est pas évident parce que qu'est-ce qui est le plus facile à faire lorsqu'on part en exil?
T'assimiler.
Vous savez, c'est quand même extraordinaire. On parle aujourd'hui du peuple juif qui est revenu en Israël, tout ça, Yom HaAtzmaout. Il y a 400 ans, le roi Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il rentre dans le débat, qu'il y a dans le débat talmudique, de savoir est-ce que la Géoula, ça vient quand on est dans une génération où tout le monde est tzadik, où tout le monde est chayav, racha. Et Et Rabbi Chaim ben Attal, il dit, mais de toute façon, même si on parle d'une génération où tout le monde fait des avérotes, comme ça a été le cas dans la réalité, au XXe siècle, l'écrasante majorité du peuple juif a abandonné la Torah. Mais, nous dit Rabbi Chaim, il y a quand même un truc qui a un mérite énorme du peuple juif. C'est qu'il est toujours le peuple juif. C'est-à-dire qu'après 2000 ans d'exil, bon alors, pour Rabbi Chaim ben Attal, c'était 1600 ans, mais après 1600 ans d'exil, le plus normal du monde, ça aurait été de plus avoir de peuple juif à sauver, c'est-à-dire ça aurait été de s'assimiler. Tous les autres peuples qui sont partis en exil, pendant tellement longtemps, se sont assimilés. Maintenant, il y a plusieurs raisons à l'assimilation, que les choses soient bien claires. On connaît, on l'a vécu dans notre chair, on l'a vécu dans notre réalité. Comment est-ce qu'on devait composer avec une réalité qui n'était pas la nôtre? Et encore, je sais que vous êtes un tout petit peu plus âgé que moi, mais vous n'avez pas vécu le changement de statut des Juifs de l'époque napoléonienne. On est d'accord? Ce qui veut dire que vous, comme moi, on est né sans poser la question avec la citoyenneté française pour ceux qui sont nés en France. C'est pas un débat. Donc déjà là, il y avait une nouvelle réalité. Dès le départ, t'es juif ou t'es français? Les gens qui étaient avant, voilà, on est israélite, on est des français de confession israélite.
Mosaïque.
Tout ça, je veux bien. Avant la Révolution française, avant Napoléon, c'est pas le cas. On est bizarre. On est bizarre.
Notre député, il a fait la prière pour la France.
Qui?
Notre nouveau député.
C'est qui notre nouveau député?
Meir Habib.
J'ai pas compris. Deux secondes, j'ai tout raté.
Devant le côté.
Mais attends, il a pas été destitué?
Il y a
eu des nouvelles élections.
Oui.
Pourquoi on m'a pas dit?
Il a gagné.
Malgré toi, il a été député de la France.
Sans ton vote, il a eu 54%.
Alors, il a fait la prière pour la France.
10% de votants. Avec 10% de
votants. Ah, d'accord. Et l'autre qui avait remis en cause les élections? D'accord. Donc, il est re-officiellement le député.
Oui. Sans conteste.
Eh bien, très bien pour lui, hein, Colacavone.
Pour nous.
Oui, oui. Et donc, très bien. Prière pour la République française. Aga, votre parenthèse, c'est la halakha. Alors, pas de l'affaire au Kotel, mais... Alors, il peut faire au Kotel s'il veut, on peut bénir qui on veut. Mais c'est la halakha qu'en France, tu dois faire la prière pour la République française. Moi, je sais que mon oncle, il l'a fait.
Je sais.
Mais s'il ouvre une de
messe... Mais il n'y a pas que les... C'est dans Marquenon, je crois, en haut. Tsarich et Bichlal, c'est marqué dans la Mishnah, Tsarich Lishol Bishloma Shel Malchut. C'est pas shoot. Mais, ok, tu peux très bien être en France tout en sachant que toi, tu n'es pas français, mais tu jouis de la protection de la France et des merci beaucoup et de Daraba. Depuis Napoléon, il y a des juifs de confession israélite. Sauf que, vous le savez bien, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous êtes un public d'érudits à ce niveau-là, c'est évident que pour avoir la citoyenneté française, on a dû passer par les 12 questions au Grand Sanhédrin de Paris. D'ailleurs, on se rappelle. Alors, Napoléon va créer le consistoire et il va réunir ce consistoire en grande assemblée et va créer le Grand Sanhédrin de Paris et va poser 12 questions. Vous retrouvez sur Internet les 12 questions de Napoléon au Sanhédrin. C'est comme ça qu'il disait. Et la question était de savoir, en fait, est-ce qu'on peut faire rentrer les Juifs dans la nation française? Parce que vous savez bien que Napoléon, il n'a pas peur des Juifs en tant que force militaire. Mais son problème avec les Juifs, c'est qu'il y a des Juifs à Metz, et il y a aussi des Juifs à Baden-Baden, à Sarrebruck. Ça va pas. Il y en a en Prusse, et il y en a en France. Et la question, c'est est-ce que les Juifs de Metz, ils sont plus loyaux envers les Juifs de Sarrebruck,
ou
envers le français de Metz. Et donc pour lui, et c'est ça la grande question. Et donc parmi les 12 questions au Sanhédrin, regarde, les rabbins et autres, parce qu'il n'y avait pas que des rabbins, il y avait le chef du Sanhédrin, c'était le rav David Zitzheim, qui est devenu le premier grand rabbin de France. Mais il y avait plein de gens, et le fait qu'on ait nos passeports français, c'est parce qu'ils ont répondu oui. Et l'une des... Alors il y a des questions où il n'y avait pas de problème de répondre oui. Mais il y a des questions qui sont compliquées. Quand on te dit, est-ce qu'un juif a le droit de se marier avec une chrétienne? Ils ont dit oui. Parce qu'on n'a pas seulement les questions, on a les réponses aussi. Ils ont dit oui. fallait bien. Hein? Alors, je ne suis pas en train de remettre en cause le choix des juifs de l'époque. Je dis simplement que dans la réalité, c'est ce qui va donner la porte ouverte à l'assimilation. Pour de vrai. Et donc, un peuple qui part en exil, il doit s'assimiler. Même si au début, il garde des traditions différentes, il y a un moment donné, ça ne passe pas. Je vais te dire mieux que ça. J'ai vu un reportage qui ne date pas de cette année. Mais tous les RF Pessah, ils le remettent, machin. Il y a eu une interview, je crois que c'était sur Cannes, du chef de la communauté des Chomronim. La communauté des Chomronim, des Samaritains, machin. Bon, il raconte plein de choses. Puis il montre la souka des Samaritains. En fait, la souka des Samaritains, c'est dans leur synagogue, il y a, sur le plafond, il y a des bambous, machin. C'est ça votre souka ? Il dit, oui. Pourquoi ? Parce qu'on a été persécutés. Donc on ne pouvait plus les faire dehors. Et donc à un moment donné, on l'a changé. Top. Tu me diras, les juifs aussi, ils ont été persécutés, ça ne les a pas empêchés de garder des soukottes. Mais, il y a un moment donné où il y a des choses que tu enlèves.
Petit à petit,
ça petit à petit, c'est plus possible. Ouais. C'est-à-dire ? Et c'est difficile de garder une tradition qui est étrangère à l'endroit où on est pendant si longtemps.
Et pourtant, elle a été gardée, cette tradition.
C'est bidiouk, le chidouche du judaïsme. C'est ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar ou Chaim HaKadosh, que c'est ça le grand mérite du peuple juif, même s'il a abandonné le Shabbat. Le fait qu'il y a encore des juifs à sauver, alors qu'on aurait dû disparaître, ça prouve la spécificité du Ham Israël.
Chaque individu, c'est, le peuple, c'est pas une simple addition des
individus. Exactement, exactement.
Il y a quelque chose de plus qui se produit.
Exactement. C'est-à-dire, donc, Yaakov sait qu'il va partir maintenant en exil. Il a besoin de prêter serment à son père, à lui-même, je ne sais pas, en disant « Je sais qui je suis. » C'est-à-dire ?« Vomer inemi, vomer adnochi ha'el Elohe avicha al tira mirda mitzrayma. » N'aie pas peur de descendre en Égypte. « Ki le goy gadol asimecha sham. » Je ferai de toi un grand peuple là-bas. Vous comprenez, quand je vous ai dit qu'il s'inscrit dans la succession d'Abraham, c'est exactement la promesse que Dieu a faite à Abraham. Donc, Abraham, il lui avait dit, « Lech lecha, va en Israël, et je ferai de toi là-bas un grand peuple. » Là, il dit à Yaakov, « Va en Égypte, parce que c'est là-bas que je ferai de toi un grand peuple. » T'inquiète pas, tu vas rentrer. C'est-à-dire, « Anochi ered im'ach, im'chas lecha mitzrayma, va anochi a'alcha gam alo. » C'est-à-dire, oui, je vais t'accompagner dans ta descente en Égypte, mais t'inquiète pas, je te ramène aussi. Va'alcha gamalo, ve'yosef yashit yado al enecha. Et c'est Yosef qui va te fermer les yeux. Ok, très bien. Va'yakom Yaakov mi Be'er Shava, va'yissu b'nei Israël et Yaakov aviem, v'et tapam v'et neshem, be'agalot asher shalach paro, laset oto. Et là, on a un problème parce qu'on croyait que qui avait envoyé les agalotes ?
Yosef.
Yosef. Et là, on se rend compte qu'il y a une désillusion terrible. Oui, Yosef, Mishne la Meler, mais Yosef, il est quand même subordonné de Pharaon. Les agalotes, elles sont stempelisées à la signature de Pharaon. C'est-à-dire qu'au final, tu peux être le juif le plus bien emplacé chez les goïms, c'est pas toi le chef. C'est pas toi le chef. C'est pas toi le chef. Et entre parenthèses, j'entendais à Yom HaShoah, un rayon qui m'a fait beaucoup réfléchir quand même. Il a dit il y a eu un changement de politique dans le peuple juif après les années Begin. Et le changement de politique était de dire on va convaincre le monde. On ne va pas agir, on va convaincre le monde. Et il dit c'est quand même fou parce que aujourd'hui on parle de l'Iran qui nous menace, tout ce que vous voulez, et que Bibi, ça fait des années qu'il se bat contre ça, et il parle à l'ONU, il parle très bien, est-ce que vous voulez. Mais il ne s'est rien passé encore en Iran. Et en vrai, on a retardé l'échéance, mais... Et à un moment donné, ils vont y arriver à leur truc. Il dit, c'est quand même très bizarre. Begin, il a attaqué en Irak. Et ce qui s'est passé, c'est quand Netanyahou il a demandé au chef d'état-major à l'époque et au Ramatkal, qui c'était à cette époque-là, je crois qu'il y avait Dagan, c'était le Rosh HaMossad, je ne me rappelle plus qui était le Ramatkal, le Khashoggi, ils ont refusé de proposer un plan d'attaque en Iran.
En Irak.
En Iran, là. C'est en Irak, ils ont attaqué, ils ont détruit aux Irak. On a détruit aux Irak. Bon, les Irakiens, ils nous menaçaient, on est arrivé, yallah.
C'est plus difficile. Hein.
Mais évidemment que c'est un cas. J'imagine que pour Begin, ça n'a pas dû être facile d'envoyer ses avions en Irak. Je ne suis pas du tout.
Non, maintenant, c'est.
Je ne sais pas si c'est plus ou pas plus. Je dis qu'il y a une réalité. Tu connais par exemple la série Faouda? Tu connais la série Faouda?
C'est une
référence. Hein, ça serait une référence. Maintenant, moi, j'aime. La série, elle est très. Mais moi, il y a un truc qui m'énerve profondément dans cette série-là. C'est quoi?
Bah. On est des
losers. Ben voilà! Alors, à la fin, on gagne. Bon, fin de la saison, c'est pas clair. Mais dans les autres saisons, on gagne. On a tué le terroriste. Finalement. Mais en vrai, on a attendu de se faire énormément taper dessus. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a juste attrapé le terroriste. C'est tout! Et Bémet, il y a des choses qui moi, m'ont fait énormément réfléchir. Imaginez-vous, Yom HaShoah, on se réveille et on voit qu'il y a une dizaine de synagogues qui ont été saccagées à Varsovie ou à Paris, l'homme chané, des voitures de juifs incendiées, des commerces de juifs détruits le jour de Yom HaShoah. Est-ce que ça ne nous ferait pas réagir? On n'aurait pas dans tous les journaux en Israël l'antisémitisme est renaît de ses cendres et machin. Et c'est quand même fou. Il y a 2 ans, on a eu ça à Yom HaShoah en Israël. Pendant les émeutes de 2021, à Lod, à Ramleh, les Arabes de ces villes-là, ils sont venus à Akko, ils ont détruit les synagogues, ils ont détruit les commerces juifs, ils ont détruit les voitures. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nous, l'État d'Israël, rien. C'est fou!
C'était le corona.
Et alors? C'est le corona, so what? Et puis d'abord, c'était déjà la fin du corona. On était sur la fin du corona déjà. Ah oui, 2021, ça y est, on était presque à la fin du corona. On était dans, ça y est, les gens ils se baladaient. La preuve, c'est que les gens étaient dans la rue pour faire ça, quoi. Donc Bekito, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on réagit quand on est ou quand on n'est pas? Et donc il te dit.
C'était des Israéliens. Donc
et alors? J'ai pas compris, ils ont pas attaqué des juifs?
Ah oui, bien sûr.
Et alors, israéliens ou pas israéliens? J'ai pas compris.
Premier ministre.
Quoi?
Qui était le premier ministre?
Bah, c'était Bibi.
C'était Bibi.
Bien sûr. Bon, c'était à chaque fois par intérim. Enfin, c'était le gouvernement intérimaire parce qu'il n'y avait pas de majorité à chaque fois dans les élections. Donc, c'était à chaque fois. Internet. Mais il n'empêche que c'était lui au pouvoir. Ouais. Il ne s'est rien passé. On a arrêté pratiquement personne. C'est vraiment, c'est une vraie question. Et donc, là, on se pose la question. Il dit. Je vais faire de toi un grand peuple là-bas, Al-Tidai, je vais descendre avec toi, mais je vais te remonter. Oui, mais c'est qui le patron là-bas? Ça reste Pharaon. T'as beau être bien placé. Le problème, c'est que faudrait pas que ça influe sur notre réalité d'aujourd'hui.
Quelle est l'importance que ce soit le stempel de.
Bah, c'est pas toi qui décides. Et aujourd'hui, on est en train de repartir dans le même état d'esprit où c'est plus nous qui décidons. Que dès qu'on veut faire un mouvement, il faut demander la bienveillance des Américains. Alors je dis pas qu'il faut se couper du monde, Razo Shalom. Bien sûr, on a besoin d'avoir des alliés et tout ça, c'est très important. Mais il y a un moment donné.
C'est difficile. Si on peut attaquer l'Iran, on a besoin de l'aide des Américains. Mais, on peut pas se mettre les Américains à deux.
Mais ils vont nous dire, bon, d'abord, je suis pas un stratège militaire, donc c'est pas à moi de décider comment on doit attaquer ou pas l'Iran. Mais je dis simplement que à chaque fois dans les guerres, machin, qu'on a pas attendu l'avis des Américains ou qu'on a fait contre eux, ça n'a pas empêché qu'ils sont restés quand même avec nous.
Oui,
c'est-à-dire, je ne pense pas qu'il faut tout le temps avoir peur de qu'est-ce qui va se passer si. Mais bon, ça c'est déjà un débat géopolitique plus poussé. Bekitso, c'est Pharaon qui nous a envoyé les agalotes. Vaïkrou.
Je peux faire une petite réflexion.
Oui, bien sûr.
Regardez comme en arrière.
Oui, en arrière.
C'était marqué Alpi.
Oui, non, mais évidemment, c'est pas,
pas
nouveau.
Tout seul.
Exactement.
C'est un peu pareil.
Non, tu as raison. Je remets l'accent dessus, bien sûr. Non, pourquoi? Parce que quand il a vu les agalotes, à Cherchalach Yosef, On s'est dit, parce que c'est la Agala, Egla Arufa, c'est ce qu'ils ont étudié les derniers coups, c'est le code pour que. Mais, Nachon, mais c'est pas à toi. C'est-à-dire Vaikru et Mikdra. ויקום יעקב מבאר שבע ויישאו את בני ישראל את יעקב אביהם ואת אפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו בניו ובני בניו איתו בנותיו ובנות בניו וכל זרעו הביא איתו מצרימה. Donc on parle du départ en exil de tout le peuple juif. C'est-à-dire tout le monde est parti. Ouah, c'est très dur. Parce que c'est la seule fois dans l'histoire où tout le monde va quitter Eretz Israël. Après cela, dans tous les différents exils, il y aura quand même des juifs qui vont rester en Eretz Israël. Même pendant l'exil de Beit Rishon, à Babylone, et pendant l'exil de Rome, il y a quand même des juifs qui sont restés en Israël. Mais là, tout le monde part. Finito la comédie. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בכור יעקב, ראובן. אז זה הוורסה כי יתחז המפורטן, ג'אמרי כמו קומפרן ניבו אתימולוג'יק. ואלה שמות, וסילנו, דבני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בכור יעקב, ראובן. כי קומפרי דן לבני ישראל איסי. Je répète le verset. Voilà les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Yaakov et ses enfants, l'aîné de Yaakov, c'était Réhouven. Donc qui est compris ?
Hein ? Deux points. Après Yaakov et Banav, deux points.
Ouais.
Et l'aîné, c'est Yahushua.
Et après Mitzrayma, tu mets pas deux points ?
Deux points.
Donc il y a deux fois deux points dans la phrase. Toi, ça te dérange pas ? Si tu vois beaucoup de phrases en français comme ça, voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Deux points.
Virgule.
Yaakov et ses enfants. Donc c'est qui Yaakov et ses enfants? C'est les Bnei Israël. Donc on le sait déjà. Pourquoi tu me le redis alors? Ça veut dire tout simplement que c'est qui les Bnei Israël Abaim Mitzrayma? C'est Yaakov ou Banav? C'est qui ces Bnei Israël qui viennent Mitzrayma? C'est Yaakov ou Banav? Et on te dit que le Bechor de Yaakov, c'est Reuven. Ok.
Et pourquoi on dit que ça? Tout le monde le sait que c'est que Reuven sont, et son Bechor. Pourquoi
il te... Bah attends, je reviens à Bechor Reuven dans deux secondes. Mais ça ne vous a pas dérangé de dire que les Bnei Israël, c'est Yaakov et ses enfants?
Bah qui s'appelle
d'eux? Non, ça ne me dérange pas, mais Yaakov fait partie des Bnei Israël? Alors c'est qui Israël?
Israël, c'est le nom de Yaakov.
Ah bah non. Yaakov, son nom, c'est quoi?
C'est le père.
C'est Israël. Donc les Béné Israël, c'est qui?
Les enfants de Yaakov. Yafé.
Les enfants de Yaakov, donc.
D'accord. Ouais.
Sauf que là, Yaakov, il fait partie des Béné Israël.
Ah oui.
Un problème.
Il ne veut pas être papa. Il
pas compris.
Donc c'est qui Israël? Le vrai, c'est Yitzhak. Il n'a jamais été appelé Israël, mais le vrai Israël, c'est Yitzhak, celui qui n'a jamais quitté Israël. Donc oui, Yaakov fait partie des Bnei Israël. D'accord? Alors Yaakov, Bechor Yaakov Reuven, pourquoi est-ce que c'est important de le rappeler maintenant?
Pourquoi?
Ben, parce que qui c'est qui se comporte comme le patron depuis pas mal de temps?
Ben,
Yehuda. Yehuda, voire Yosef. Maintenant. Donc non, il faut rappeler que le Bechor, ça reste Reuven. Tu ne peux pas enlever comme ça. C'est-à-dire, bien que finalement, la Bechora, il va la donner à Yosef. La double part d'héritage, il va la donner à Yosef. Tu vas devenir Menaché Véfraïm, mais pas à Réhouven. Oubené Réhouven, Chanoch, Oupalou, Véchetzron, Véchermi, Oubené Shimon, Yemuel, Véyamin, Véoad, Véyachin, Véchar, Véchaoul, Ben Akenaanit. Quoi? C'est qui ce Shaoul, fils de la Cananéenne? Oui, Rashi te dit. C'est qui Rashi te dit? Ben Aknaanit, Ben Dina.
Ah, Dina.
Dina, sa sœur. Chez Nivala, le Knaani. Parce qu'en fait, Dina, elle avait été prise par Shrem. D'accord? Shrem.
J'ai compris, mais comment
il l'a mis enceinte.
J'ai compris, mais comment?
Attends,
le fils de Shimon.
Il l'a mis enceinte.
Oui.
Et Shimon et Lévi, ils sont venus, ils ont tué tout le monde.
Ah, ok.
Ok? Ils ont pris Dina. Et Dina, elle ne voulait pas y aller. Il a dit, je suis enceinte d'un nochri, c'est qui va vouloir de moi? Personne. Je bouge pas tant que tu me trouves pas une solution. Et Shimon nous dit le Midrash, il a dit, bon alors c'est, tu viendras vivre chez moi. Je serai ton mari. Pas qu'ils ont eu des relations frères et sœurs. Mais elle était sous sa protection et il a adopté son fils. C'est-à-dire, donc c'est Shaoul, mais ben à Knaanit, parce que Keilou n'y va là le Knaani. Ok, que son. Un zecher pas très joli de qui était son père. Donc Shaoul ben Knaani. Ou ben Levi, Gershon, Kehat, ou Merari. Ou ben Yehuda, Er ve Onan ve Shela, ve Peretz, ve Zarach. וימות ער ועונן בארץ כנען, והיו בני פרץ, חצרון וחמול. ובני שכר, תולה ופועה ויוב ושמרון. ובני זבולון, סרד ואלון ויחלאל, אלה בני לאה, אשר ילדה ליעקב בפדן ארם, ודינה ביתו, כל נפש בניו ובנותיו, 33.
De tout, il n'y avait que des garçons, il n'y avait qu'une fille.
Non, c'est sûr que non.
Mais oui.
Non, c'est sûr que non.
Il n'y avait que Dina.
Mais oui, mais c'est sûr que non.
C'est sûr qu'il y avait d'autres filles avec tout. Mais bon, bref.
Mais
on n'en parle pas.
Hein. Non. On ne cite que les noms des garçons.
On ne cite, que les, noms de, on cite que les noms de ceux qui vont avoir une influence sur l'histoire.
Donc les femmes sont laissées.
Bah, les amis, on va pas se la jouer à l'envers. Hein. On est dans une époque où la société elle est patriarcale complètement. Hein. On va pas. Faire du féminisme à deux voix, à 2 francs 50. C'est sûr qu'à l'époque, c'est pas les femmes qui, opportent, qui occupent les postes.
On parle de poids.
Alors, on parle des fois de femmes. C'est-à-dire, ah, tu dis que poids ici, oui. C'est pas pouva, c'est pas poids, c'est pouva.
Ah, pouva.
Pouva. C'est pas le poids de Chifra et poids. C'est-à-dire, mais on parle de Dina, on va parler de Sérar, mais c'est vrai qu'il y a peu de femmes qui vont avoir une influence sur l'histoire à ce moment-là. Voilà, ça. אלה בן אליה אשר ידע ליעקב פדברן ודינה ביתו כל נפש בניו ובנותיו 33 ובני גד ציפיון וחגי שוני ואצבעון ארי וערודי וערעלי בוא נורא ערעלי ערעלי כן פא עריאל ערעלי ובני אשר ימנה וישבה וישבי ובריאה וסרח אחותם. תראה, עם עוד פי. כן? סל כיבה אנונסה, הוא נדיק, כי הוא אנונסה יעקב, כי יוסף תנקרוני. אוקיי? ובני בריאה חבר ומלכיאל. אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה ביתו ותלד את אלה ליעקב 16 נפש. 33 plus 16. Ça nous fait 49. Ok?
Je sais pas, on doit arriver à
70. Ah, c'est ça. Ubené Rachel, Eshet Yaakov, Yosef ou Binyamin. Veivalet le Yosef, Beeretz Mitzraim, son né à Yosef en Égypte, Asher Yaldalo, Asnat Bat Potifera, Kohen On, et Menashe, Veet Ephraim. Donc, ils ont une ascendance qui est étiquetée égyptien. Donc, même si le Midrash nous dit qu'en fait, que Asnat, c'était la fille de Dina, que machin, dans la Torah, on la présente comme étant une égyptienne. Donc, la question identitaire chez Menashe et Ephraim, elle est très forte. Elle est très, très forte. Rappelez-vous pourquoi Yosef les a appelés comme ça. Pourquoi Yosef a appelé son fils Menashe? Qui n'a chani Elohim et kol amali et kol betavi. J'ai oublié la maison de mon père. Vefraim qui frani Elohim beretzoni, parce que Dieu m'a fait réussir ici. Donc, c'est compliqué. Ils sont vraiment égyptiens, ces gens-là. Dur. Et donc, c'est pas étonnant que de la tribu de Ephraim, c'est là qu'on va avoir tout le temps, après, Mamlechet Israël, la tendance à aller prendre les minagim des goïm. C'est l'eau pas chou de cette histoire. Donc, Ephraim, ou Bene Binyamin, Bela, Vebecher, Vashbel, Gera, Naaman, Echi, Varosh, Mupim, Choupim, Ard. Il y a déjà 10 gosses. Hein. Ça, nous, on pense que Binyamin, c'est le petit jeune, il a 12 ans. Binyamin, on va se calmer, il a 23 ans, il a 10 gosses.
C'est-à-dire Avec la même femme.
Hein?
Avec la même femme.
C'est
pas sûr, on en sait rien.
Non, je rentre pas dans leurs affaires. Je sais pas.
Ce qui est marrant, c'est que Yosef, il en a eu que deux.
C'est ça, hein?
Je sais pas, il n'y a pas de midrashé là-dessus. Pourquoi pas il a eu plus d'enfants?
Pourquoi il n'a pas eu plus d'enfants?
Il n'avait pas le temps, il était tout le temps pour moi épandu, en train de s'occuper de...
C'est ça, c'est ça. Elé bené Rachel, asher yulad le Yaakov, kol nefesh, arba, asar. Ok?
Je ne sais plus à combien on était.
Bah, on était à 49. Okay. Donc on est à 63. Où venait Dan, Khushin. Là, lui, il n'a qu'un fils.
Ah
ben, c'est encore mieux. T'as vu? Où venait Naphtali, ירצאל וגוני ויצר ושילם. אלה בני בלעה אשר נתן ללבן, לבן לרחל, ביתו, ותלד את אלה ליעקב, כל נפש שבעה. נכון?
70.
נכון, בוא.
וזה פרנום דה כושי.
וואי. ותשמע כושי, דואר. כושי. כושי.
כושי.
כושי. כושי. מה נו? Chouchin, il est appelé dans Divrei Hayamim Shucham. Et pourquoi il s'appelle Shucham et pas Chouchin? Rashi dit qu'il Shachor Beoro Aya. Ben, il semblerait que la femme de Dan, elle était, était noire.
Ben oui. Et c'est lui qui avait coupé la tête de.
Et c'est Chouchin qui a coupé la tête de Esav.
D'accord. Et qui est parti.
Qui est parti où?
Eh ben, elle est enterrée là.
Ah, la tête de Esav est partie dans Merat Amarpela et le corps ils l'ont emmené à Arsé. D'accord. Donc ça c'est Khushin Ben Dan. D'accord. Premier juif de couleur dans le peuple juif. En même temps, premier juif de couleur, Abraham, Yitzhak et Yaakov n'étaient pas Ashkenaz de Norvège. C'est-à-dire, ils étaient certainement beaucoup plus des gens qui ressemblaient à des Thémanim que à des Ashkenazim de Pologne. C'est-à-dire. Malasot, hein, il venait quand même du fin fond de l'Irak du Sud. Donc, question blond aux yeux bleus, on repassera. C'est-à-dire. Kol nefesh, aba le Yaakov, mitzraima, yotze yerech, milvad neshe bene Yaakov. Tu vois, il te dit, le décompte, c'est sans prendre en compte les femmes des enfants de Yaakov. Kol nefesh, shishim, vashesh. Bah.
Nous, on avait dit 60.
Bah. Alors comment on fait?
Ils ne savent pas calculer.
Ils ne savent pas calculer, c'est fou.
Ils savent pas
marcher. Je comprends pas. Ils nous ont dit que ici il y avait Kol Nefesh Ben Elea, Ken, Yalda Yaakov Ben Aran, Shloshim, Veshalosh. Après ils nous ont dit Ele Ben Zilpa, Sheshesre. D'accord? 49. Après, nous ont dit, les enfants de Rachel, Arba Asar. Donc, 49. On passe.
53.
Comment ça, 53? Arba Asar.
63.
63. Et après, on a 7. Donc, pourquoi est-ce qu'on a, pourquoi ils nous disent 70? Pourquoi ils nous disent 70?
Qu'est-ce qui manque?
Il faut lire la suite.
Mais non.
Merci.
Mais non. Dans tout le décompte. Il y en a au moins deux que tu peux enlever.
Non, parce qu'après, ils disent chez nous.
Il te dit comme ça. « Kol nefesh abba le Yaakov mitzraima yotze erecho milvad neshe bene Yaakov, kol nefesh shishim vashesh. » Qui t'enlève dans le décompte déjà?
Les femmes.
Non, ça on les a déjà enlevés. On l'a dit qu'ils ne sont pas dans le décompte. Mais tu enlèves Menaché et Ephraim. Eux, ils ne viennent pas en Égypte.
Ils sont déjà.
Ils sont déjà. C'est-à-dire, on t'a dit, le verset, il te dit « Voici toutes les âmes qui descendent en Égypte. » C'est-à-dire, donc, tu enlèves Menaché et Ephraim. Regardez ce que dit Rashi. Kol nefesh abba le Yaakov, sheyatzu me'eretz Kenan, lavo Mitzrayim, le Mitzrayim. Ve'en abba zo leshon avar, ela leshon ove, kmo be'erev ha'i ba, ukmo ve'ine Rachel bito ba imatzon. Lefichach, ta'amo lemata ba'alef, lefi shekshyatzu lavo me'eretz Kenan, lo ayu ela 66. Quand ils sont partis, 66. והשני, כל הנפש לבית יעקב הבא מצרים השבעים, ולשון עבר, לפיכך טעמו למעלה בבית, לפי שמי שבאו שם היו שבעים, שמצאו שם יוסף ושני בניו, ונתאספה להם יוכבת בין החומות. En fait, te dis, מנשה ואפרים, tu les enlèves du compte. יוסף aussi, tu les enlèves du compte.
נכון?
Déjà sur place.
et il y a une 70e. C'est qui? Yochevet. Yochevet, qui est né Benachomot, qui est né en rentrant en Égypte. Donc quand ils sont partis, elle n'était pas encore née.
Elle est née de qui? C'est la fille de qui?
De chez Lévi. Ish va y avoir Ish mi bet Lévi, va y kach et bet Lévi. Elle est Lévi. C'est ça?
T'as un problème quand même.
Mais évidemment que t'as un problème quand même. Il a fait merde. Ma tchouva. Eh bien, tu vois que dans la Torah, c'est l'or chachouf, comment tu arrives au chiffre, il faut arriver au chiffre.
C'est une réponse.
Ça, c'est un vrai
drague, ça. Ça, c'est un vrai truc de juif. Hein. Enfin, je vous rappelle que c'est pas le premier. Hein. Dieu, il a promis à Abraham, Yado Ateda, Kiger, Yezaracha, Beretz Lolaem, Vavadum, Veino Otam, Arba Meot Shana. Dieu, il a promis qu'on serait dans un pays étranger pendant 400 ans. Et finalement, on y a été 210 ans. Alors comment on dit c'est 400 ans? Mais non, mais c'est 400 ans parce qu'en fait ça commence avec la naissance de Yitzhak. Parce que Yitzhak, il est né dans un pays qui n'était pas le sien. Et depuis qu'il lui, il est né, 400 ans, et pas 210. Ah. Galout, Yirmiyahu, il a dit 70 ans. Comment on compte les 70 ans? Chacun. Il y a 7 façons de compter les 70 ans dans, dans le Tanakh.
Donc ça, on
ne
parle pas des filles.
Et on ne parle pas des filles. Tu vois, on s'est arrangé. Maintenant, pourquoi il faut que ce soit 70? Parce que c'est Keneged, j'ai vu mon motaola. C'est-à-dire, parce que le peuple juif, il est là pour apporter un message à l'humanité. Donc, ok, très bien. Ve'et Yehuda shalach lefanav el Yosef leorot lefanav goshna. Ve'avou arza goshen. Et ça, c'est important. Yehuda est envoyé en éclaireur. Vous comprenez bien que faire bouger tout le monde... Les 70 mentionnés, plus ceux qui ne sont pas mentionnés, plus les troupeaux, plus...
Les femmes.
Plus ceux qui ne sont pas mentionnés, plus les troupeaux, plus machin, ça prend du temps. Un homme seul qui part, ça va plus vite. Donc Yehuda est envoyé en avant. Pourquoi faire? Le Horot Lefanav Goshna. Rashi nous dit, l'Atkin Bet Talmud. Il a créé une yeshiva. Comme ça, tout le monde, quand on arrive, il y aura déjà la choule, il y aura le mikvé.
Manger, c'est pas important.
L'étude.
Non, manger, c'est pas important. On a des réserves. Yosef nous a envoyé des réserves. Mais, vous savez bien que qu'est-ce que fait une communauté juive quand elle arrive dans un endroit? On crée une choule, on crée un mikvé. Maintenant, d'accord, mais Yosef, il peut pas le faire. Yosef, il peut pas créer une synagogue, les institutions Ohalé Yosef. Je sais pas, ça peut le faire, non? Au nom de Yitzhak, le bâtiment a été offert par Yosef au nom de son grand-père Yitzhak. Non, c'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Mais Yaakov, il comprend qu'il va y avoir deux grandes idéologies qui vont s'affronter en Égypte. Il va y avoir le yosefisme et le yéhoudisme. Le yosefisme, c'est le français de confession israélite. Alors que le yéhoudisme, c'est le yéhoudi. Le yéhoudi qui sait d'où il vient et qui sait où il doit rentrer. On a entendu pendant la campagne de Éric Zemmour, on a entendu la phrase, que tout le monde n'est pas historien et tout le monde ne se rappelle pas, mais on a entendu et réentendu et réentendu la phrase qu'avait dit Clermont-Tonnerre à l'époque de Napoléon. Tout aux Juifs en tant qu'individu, rien aux Juifs en tant que nation. Mais ça, c'est l'esprit yosefique. On va donner les droits, tous les droits possibles aux Juifs, y compris le droit de culte. Mais ce sont des Égyptiens. Il n'y aura pas marqué « Imeshkacher Yerushalayim » dans le Sidour.
C'est normal.
Et on va, si vraiment les gens ont besoin, on fera une grande fresque du Kotel dans le centre communautaire de Strasbourg. Comme ça, il n'y aura pas besoin. C'est-à-dire, alors que Yehuda, c'est les yeux tournés vers Eretz Israël. Donc il y a vraiment deux idéologies qui vont s'affronter ici, entre Yosef et Yehuda. Et Yaakov dit à Yehuda, c'est toi qui dois donner le ton. Donc tu dois aller toi construire le style de yeshiva, si vous voulez, qu'on va mettre en place, le style d'enseignement, le style de Torah qui va être transmis quand on sera en Égypte. On ne peut pas laisser Yosef gérer ça.
Est-ce que Yosef est venu habiter à Goshen?
Pas du tout. Bah, pas du tout.
Lui, il est resté.
Bah, il est à côté de Pharaon. Il ne peut pas. Attends, je travaille.
Non, c'est une
question. Non, mais c'est une bonne question. C'est-à-dire que Yosef, il est à Amok. Alors maintenant, Yosef ou Tzadik? On appelle Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, donc ça veut dire que quand on te dit Yosef Aya Be Mitzrayim, Rashi nous dit ou Betitko. C'est-à-dire que Yosef, lui, il est capable de dire Eve Yehudi Bebetecha, Adam Betzetecha. C'est-à-dire Yosef, il sait dire la phrase de Mendelssohn.
À la maison.
Soit un juif à la maison et un égyptien dehors. C'est-à-dire que Yosef lui-même, bien sûr que quand il sort de chez lui, il a la coiffe égyptienne, il est en jupette, il a le truc doré là, et il parle égyptien sans aucun accent.
Et il a donné à manger quand même à toute la famille.
Et, mais il a donné à manger à toute la famille, pas de problème. Mais je suis un égyptien, je m'appelle Tsarfnat Panar. Et tout le monde ne peut pas douter de ma loyauté. Quand je suis à la maison, je mets ma kepel et je parle en yiddish avec mes enfants. J'essaie de leur apprendre la langue de leurs ancêtres. C'est-à-dire, je leur fais venir un rabbin pour faire le Talmud Torah à la maison. Et donc Yosef, lui, il y arrive. C'est pas évident du tout pour les autres. Prenons un exemple tout simple. Votre exemple, à vous tous. Vous avez des enfants. Si vous êtes deux parents, et encore vous, ça marche pas parce que vos enfants, ils ont grandi en France. Donc c'est un peu biaisé. Mais disons la génération de vos enfants. Prends ton fils, il s'est marié avec une fille qui a grandi aussi en France. Ils ont essayé de venir en Israël, ils sont venus en Israël, ils ont eu des enfants en Israël. Fait merde. Les enfants, ils parlent le français ou ils parlent pas le français ? Ils parlent le français. Parce que les deux parents sont français, ils ont décidé de leur parler en français à la maison, ça a marché. Yofi. Ethan, il s'est... Non, il a même pas essayé. Je crois pas.
Avec ses enfants.
Lama. Encore une fois, deux francophones.
Ouais.
Et c'est Eli. Donc, Akshanout. Mais c'est pas évident.
Non.
Donc, Yosef, lui, il arrive à être Yosef à la maison et Sarfdat Paner dehors. Est-ce que Menaché et Ephraim, ils ont réussi, eux ? Alors, on sait que oui, mais Ephraim, il a étudié avec Yaakov en Égypte. Mais la génération d'après ? C'est très compliqué. Ça a l'air. Donc c'est vraiment difficile. Agav, Yesh Letzayen.
C'est ce qui s'est passé.
Oui, mais bien sûr.
On a la sortie d'Égypte.
Mais bien sûr. Mais Yesh Letzayen que Moshe Mendelssohn lui-même, il était religieux. Il faisait toute la Torah. Intransigeant sur toute la halakhot. Les enfants, ils sont convertis au christianisme. Parce que c'est trop dur. Soit juif à la maison et un Européen dehors, un Allemand dehors, un Égyptien dehors. C'est trop dur. Toi qui as fait le choix, allez, ça passe. Mais pour la suite, c'est très compliqué. C'est-à-dire ? Donc c'est exactement pour ça qu'il dit « Vet Yehuda shalach lefanav el Yosef, leorot lefanav goshna, vavou arza goshen. » C'est toi qui dois donner le ton. « Vayesor Yosef merkavto, vayal likrat Israël aviv goshna, vayera elav, vayipol al tzavarav, vayefk al tzavarav od. » Ça y est, Yaakov arrive. Yosef lui tombe dans les bras et ils pleurent ensemble. Alors, nous disent nos sages que pourquoi ils pleurent ? C'est normal qu'ils pleurent. Ils ne se sont pas vus depuis si longtemps. Mais sauf qu'à ce moment-là, qui devrait pleurer ? Yosef, il pleure parce qu'il retrouve son père. Je comprends. Mais son père ne pleure pas. Regardez ce qu'il y a marqué. ויאסור יוסף מרכבתו, ויהיה לקראתו, לקראת ישראל אביו, סליחה גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד.
יוסף.
יוסף קיפלור. פורקוה, יעקב, נפלור תלפה. אביוס אסקנוברו. לפרושי פה. חזק.